lui, suffoqué par l'émotion, l'avait suivi dans sa chambre. Et, comme elle n'était plus qu'en jupon, les bras nus, les épaules nues, il affecta de remarquer quelque chose à son cou. « Tiens, qu'est-ce que tu as donc là? Fais voir !» Il cachait le collier dans sa main. Il parvint à le lui mettre en feignant de promener ses doigts pour s'assurer qu'elle n'avait rien. Mais elle se débattait gaiement. « Finis donc, je sais bien qu'il n'y a rien. Voyons, qu'est-ce que tu trafiques? Qu'est-ce que tu as qui me chatouille ?» D'une étreinte, il la saisit. Il la mena devant la grande psyché où elle se vit toute. À son cou, la mince chaîne n'était qu'un fil d'or, et elle aperçut les 7 perles comme des étoiles laiteuses, nées là et doucement luisantes sur la soie de sa peau. C'était enfantin et délicieux. Tout de suite, elle eut un rire charmé, un roucoulement de colombe coquette qui se rengorge. « Oh, maître, maître, que tu es bon! Tu ne penses donc qu'à moi! Comme tu me rends heureuse !» Et la joie qu'elle avait dans les yeux, cette joie de femme et d'amante, ravie d'être belle, d'être adorée, le récompensait divinement de sa folie. Elle avait renversé la tête, rayonnante, et elle tendait les lèvres. Il se pencha, ils se baisèrent. « Tu es contente ?»« Oh oui, maître, contente, contente ! C'est si doux, si pur, les perles, et celles-ci me vont si bien !» Un instant encore, elle s'admira dans la glace, innocemment vaniteuse de la fleur blonde de sa peau sous les gouttes nacrées des perles. Puis, cédant à un besoin de se montrer, entendant remuer la servante dans la salle voisine, elle s'échappa, courut à elle, en jupon, la gorge nue. « Martine, Martine, vois donc ce que maître vient de me donner. Hein, suis-je belle ?» Mais, à la mine sévère, subitement terreuse de la vieille fille, sa joie fut gâtée. Peut-être eut-elle conscience du déchirement jaloux que son éclatante jeunesse produisait chez cette pauvre créature, usée dans la résignation muette de sa domesticité, en adoration devant son maître. Ce ne fut là, d'ailleurs, que le premier mouvement d'une seconde, inconscient pour l'une, à peine soupçonné pour l'autre. Et ce qui restait, c'était la désapprobation visible de la servante économe, le cadeau coûteux regardé de travers et condamné. Clotilde fut saisie d'un petit froid. « Seulement, murmura-t-elle, maître a encore fouillé dans son secrétaire. C'est très cher, les perles, n'est-ce pas ?» Pascal, gêné à son tour, se récria. Expliqua l'occasion superbe, conta la visite de la revendeuse en un flot de paroles. Une bonne affaire incroyable! On ne pouvait pas ne pas acheter. Combien? Interrogea la jeune fille avec une véritable anxiété. 300 francs. Et Martine, qui n'avait pas encore ouvert la bouche, terrible dans son silence, ne put retenir ce cri. Bon Dieu! De quoi vivre 6 semaines, et nous n'avons pas de pain !» De grosses larmes jaillirent des yeux de Clotilde. Elle aurait arraché le collier de son cou si Pascal ne l'en avait empêché. Elle parlait de le rendre sur le champ, elle bégayait, éperdue. « C'est vrai, Martine a raison. Maître est fou, et je suis folle moi-même à garder ça une minute dans la situation où nous sommes. » « Il me brûlerait la peau, je t'en supplie, laisse-le-moi reporter. » Jamais il ne voulut y consentir. Il se désolait avec elles deux, reconnaissait sa faute, criait qu'il était incorrigible, qu'on aurait dû lui enlever tout l'argent. Et il courut au secrétaire, apporta les 100 francs qui lui restaient, força Martine à les prendre. « Je vous dis que je ne veux plus avoir un sou, je le dépenserai encore. » « Tenez, Martine, vous êtes la seule raisonnable. Vous ferez durer l'argent, j'en suis bien convaincue, jusqu'à ce que nos affaires soient arrangées. Et toi, chérie, garde ça, ne me fais point de peine. Embrasse-moi, va t'habiller. » il ne fut plus question de cette catastrophe. Mais Clotilde avait gardé le collier au cou, sous sa robe. Et cela a été d'une discrétion charmante, ce petit bijou si fin, si joli, ignoré de tous, qu'elle seule sentait sur elle. Parfois, dans leur intimité, elle souriait à Pascal. Elle sortait vivement les perles de son corsage pour les lui montrer, sans une parole. Et, du même geste prompt, elle les remettait sur sa gorge tiède, délicieusement émue. C'était leur folie qu'elle lui rappelait, avec une gratitude confuse, un rayonnement de joie toujours aussi vive. Jamais plus elle ne les quitta. Une vie de gêne, douce malgré tout, commença dès lors. Martine avait fait un inventaire exact des ressources de la maison, et c'était désastreux. Seule, la provision de pommes de terre promettait d'être sérieuse. Par une malchance, la jarre d'huile tirait à sa fin, de même que le dernier tonneau de vin s'épuisait. La souléiade, n'ayant plus ni vigne ni olivier, ne produisait guère que quelques légumes et un peu de fruits, des poires qui n'étaient pas mûres, du raisin de treille qui allait être l'unique régal. Enfin, il fallait quotidiennement acheter le pain et la viande. Aussi, dès le premier jour, la servante rationna-t-elle Pascal et Clotilde, supprimant les anciennes douceurs, les crèmes, les pâtisseries, réduisant les plats à la portion congrue. Elle avait repris toute son autorité d'autrefois. Elle les traitait en enfants, qu'elle ne consultait même plus sur leurs désirs ni sur leurs goûts. C'était elle qui réglait les menus, qui savait mieux qu'eux ce dont ils avaient besoin. Maternelle, d'ailleurs, les entourant de soins infinis, faisant ce miracle de leur donner encore de l'aisance pour leur pauvre argent, ne les bousculant parfois que dans leur intérêt, comme on bouscule les gamins qui ne veulent pas manger leur soupe. Et il semblait que cette singulière maternité, cette immolation dernière, cette paix de l'illusion dont elle entourait leurs amours, la contentait un peu elle aussi, la tirait du sourd désespoir où elle était tombée. Depuis qu'elle veillait ainsi sur eux, elle avait retrouvé sa petite figure blanche de nonne vouée au célibat, ses calmes yeux couleur de cendre. Lorsque, après les éternelles pommes de terre, la petite côtelette de 4 sous, perdue au milieu des légumes, elle arrivait certains jours sans compromis.